RCF. Bonjour à toutes et à tous. Trop de sujets à couvrir dans l'actualité nous mènent vers ce que l'on nomme l'infobésité, un terme que j'ai découvert il y a peu et qui vient bien décrire ce qu'est aujourd'hui une chaîne d'info en continu. Elle est aux médias ce qu'est la malbouffe à la gastronomie, une sorte de réceptacle qui déverse du savoir en masse sans laisser la place à l'analyse personnelle et donc à la mise en confrontation avec la connaissance, faisant ainsi émerger cet adage « plus je sais de choses, moins je connaît de choses ». Et le premier à partir de cette infobésité, eh bien c'est notre cerveau à qui on refuse le droit à la déconnexion et donc le droit de réfléchir, de mettre en perspective. Car celui-ci est sans cesse stimulé par un emmagasinement de savoir, un fond continu, podcasts, séries, docu, films, consultations internet, et ce à tous les instants et tous les moments de notre vie. Mais la question qui émerge est quelle est la contrepartie de cette sursollicitation ? Eh bien il y en a plusieurs. Tout d'abord, toutes les palettes du out, le burn, le bore et j'en passe, mais aussi notre capacité à être créatif. Car la créativité nécessite du vagabondage intellectuel. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que le moment où nous sommes le plus créatifs, où nous avons le plus d'idées, c'est quand nous déconnectons notre cerveau, à savoir la course à pied et tous les sports ne nécessitant pas d'attention particulière, le fait de conduire sa voiture, la prière, la méditation et enfin sous la douche où nous sommes tous des Einstein en puissance. Et ce n'est pas sans raison que les maîtres de l'IA et des GAFA inscrivent leurs enfants dans des écoles déconnectées. Car l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle ne sera pas l'accumulation de savoir, mais la capacité à comprendre et à connaître le monde. Car l'avenir de ce monde, justement, appartiendra à la connaissance et non au savoir. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h. Aujourd'hui c'est la journée mondiale du recyclage, et bien je vous propose une émission spéciale recyclage et seconde main. Je vous rassure, cette émission n'est pas totalement recyclée, il n'y avait pour les plus perspicaces d'entre vous que l'édito qui était recyclé puisqu'il date de mars 2018. Voilà, recyclage et seconde main, c'est le thème de cette émission avec Maude Garda de la Belle Emmaüs, avec Simon Turchet et Christophe Ménez. On évoquera dans le dossier en quoi la seconde main peut être un levier pour l'inflation, pour permettre de gagner en pouvoir d'achat pour tous les Français. On sait bien combien aujourd'hui l'inflation est forte et combien le pouvoir d'achat des Français est entamé. On retrouvera aussi à la fin de cette émission Timothée Leclerc, qui est le chargé d'administration et de développement d'une ressourcerie culturelle à Montaigu, ressourcerie culturelle qui permet aux événements de pouvoir recycler tous les objets et éléments de décor qui sont utilisés durant un événement. On verra ça avec lui de manière plus approfondie à la fin de cette émission. Et puis on retrouvera bien sûr Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives, mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Ilphine Lagarde, qui est la cofondatrice de Youds, une marketplace destinée à justement revendre tous ces objets dont vous n'avez plus besoin, particulièrement en ameublement et électroménager. Et chez Youds, eh bien, ils ont eu la bonne idée de publier une étude, et c'est ce que nous allons creuser avec Ilphine Lagarde d'ici quelques instants, puisqu'elle est notre invitée écho de cette semaine.
L'invitée écho, Patrick Longchamp.
Voilà, c'est notre invité écho de cette semaine en cette journée du recyclage, et je suis avec Ilphine Lagarde. Bonjour Ilphine.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Used, qui est une marketplace de seconde main, et vous avez eu la bonne idée de publier une petite étude pour porter cette journée du 18 mars. On va l'évoquer avec vous. Quelques mots peut-être sur Used, une marketplace qui est une sorte, allez, je vais peut-être pousser des portes faciles à pousser. Est-ce que c'est une sorte de Vinted, mais de la meublement?
Exactement. Nous, notre objectif, c'est d'inciter les gens de plus en plus à se meubler de façon circulaire et durable, parce qu'on sait que l'impact du mobilier, de l'électroménager neuf est important. d'un point de vue écologique, mais bien sûr aussi d'un point de vue budgétaire. Et donc, on offre avec le même confort et les mêmes services que ce qu'on peut avoir sur le neuf, un catalogue de produits, meubles, électro et déco, qui est issu soit de particuliers qui viennent les vendre gratuitement sur notre site, soit de reconditionneurs avec lesquels on travaille qui les vendent sur le site, ou encore des retours e-commerce qui sont un petit peu abîmés, qui peuvent pas être réintégrés dans les stocks, mais qui méritent une seconde vie.
Alors, on sait que chaque année, un Français produit plus de 57 kilos de déchets d'ameublement et d'électroménager. Chaque seconde, 113 kilos d'encombrement qui sont mis sur les trottoirs de France. Cette étude que vous avez réalisée, est-ce qu'elle démontre quelque part que les Français sont peut-être plus à même aujourd'hui d'aller sur de la seconde main que sur du neuf?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de revendre son mobilier, son électroménager. On est souvent un peu contraint par le temps. Nous, on voit que les vendeurs, en fait, nous ont dit dans le cadre de notre étude que ce qui les freinait le plus, c'était le côté un peu chronophage et la charge mentale que ça pouvait représenter de revendre leurs équipements de la maison. On est souvent en plein déménagement. Du coup, on a plein de choses à gérer et le fait de faire des petites annonces, de gérer le prix, les négociations, les rendez-vous avec les acheteurs qui nous font faux bons, etc. C'est souvent des freins et on se rend compte que la plupart des vendeurs, enfin il y a une grande partie des vendeurs qui lâchent l'affaire et qui vont tout simplement mettre leurs objets aux encombrants ou à la benne alors qu'ils pourraient vraiment avoir une seconde vie. Nous, l'objectif, c'est vraiment de leur faciliter la vie sur notre site. Pour justement lever tous ces freins.
Alors, et du côté des acheteurs, aujourd'hui, les Français sont prêts à acheter. Alors, c'est compliqué de laisser. Vous parliez de la charge mentale à l'instant hein, pour le vendeur, mais pour l'acheteur aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acheteurs se meubler avec de la seconde main.
Alors, sur les acheteurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont près de 95% à nous avoir déclaré qu'ils étaient prêts à s'équiper de seconde main, donc à équiper leur foyer. Et c'est vrai que quand on y pense, la plupart d'entre nous habitons dans des logements qui sont de seconde main, voire de troisième, quatrième ou cinquième main. Par contre, on a tous le réflexe de vouloir l'équiper de neuf. Aujourd'hui, il y a les motivations qui sont d'abord économiques, mais aussi écologiques qui sont fortement en augmentation, qui poussent les gens à vouloir aller s'équiper de seconde main. Mais sur le mobilier électroménager, on a encore plusieurs freins.
Lesquels, par exemple?
Alors, en fait, les freins principaux, il y en a plusieurs. Le premier, c'est la partie logistique. C'est bien joli de trouver un objet volumineux type un canapé ou un frigo ou un lave-linge qui nous plaît sur un site de petites annonces. Encore faut-il pouvoir se l'acheminer jusque chez soi, et même si on a une voiture, ça rentre pas toujours dedans. Donc nous, on a complètement intégré la logistique de volumineux, c'est-à-dire que tous les objets que vous voyez sur notre site peuvent être livrés chez vous, où que vous soyez en France, même si bien sûr on favorise les échanges de proximité.
Bien sûr, oui.
Et on va travailler du coup avec des gens dont c'est le métier de bouger ces objets qui sont pas emballés, qui sont parfois en plusieurs morceaux. Donc ce sont des déménageurs et non pas juste des personnes qui sont habituées à bouger des colis. Le deuxième gros frein, vous en parliez, c'est toutes les questions qui sont autour de la qualité, des garanties qu'on va avoir. On est habitué à avoir par exemple 14 jours pour changer d'avis quand on achète en ligne. Nous, on a justement beaucoup innové sur cette partie, puisque sur notre site, vous avez également 14 jours pour changer d'avis quand vous achetez un objet, même si vous l'achetez à un particulier. Concrètement, en fait, si vous recevez un canapé, que le tissu n'est pas tel que vous l'imaginiez ou que la couleur ne vous plaît pas, vous avez 14 jours pour nous renvoyer cet objet à notre entrepôt qui est en région parisienne, et on va vous rembourser le prix de l'objet moins les frais du retour. Le vendeur, lui, sera payé et va pas revoir son canapé revenir, parce que vous doutez bien que s'il a déménagé entre temps, il n'a pas envie de revoir son objet revenir. Et donc on offre une vraie solution qui protège à la fois le vendeur et l'acheteur et qui sécurise et garantit vraiment les achats. On travaille aussi, et c'est super important, avec des personnes qui font du reconditionné. On sait qu'il y a certaines catégories de produits comme l'électroménager, comme la literie par exemple, sur lesquelles il peut y avoir des freins à acheter de la seconde main par peur d'une panne ou par peur de l'hygiène. Et du coup, on travaille avec des professionnels du reconditionné qui eux vont proposer des alternatives qui sont complètement cohérente avec ce qu'on veut faire, parce qu'elles sont circulaires et elles permettent de prolonger la vie des objets, de pas jeter, etc. Qui sont quand même un mi-chemin entre de la seconde main entre particuliers et du neuf.
Alors, avec cette période de grosse inflation, on sait que le pouvoir d'achat des Français est très entamé. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez pu constater, vous, par exemple, que vous avez eu une augmentation des ventes sur votre site depuis cette période qui commence maintenant à dater, hein, un peu plus d'un an maintenant d'inflation continue?
Ouais, exactement. Après, ça s'est encore plus accentué là depuis sur le deuxième semestre de l'année 2022. Et nous, effectivement, on a vu notre trafic et nos ventes pas mal exploser à ce moment-là. Nous, on a un trafic qui a été multiplié par deux sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021, et des ventes également qui ont été multipliées par plus que deux. Mmh. On sent qu'il y a une vraie appétence pour des produits qui sont pas chers. Et par exemple, sur l'électroménager, on a 80% de l'électroménager qui est vendu, qui sont des objets qui sont à moins de 250 €. Parce qu'on sait vraiment que voilà, c'est des gens qui arrivent avec un budget, et ils arrivent avec une vraie contrainte budgétaire, et du coup, sur notre site, ils trouvent une solution livrée chez eux, etc., mais à un prix qui est accessible dans leur budget.
Quel est, selon vous, l'avenir de la seconde main? On va y passer de manière, je vais dire, pas obligatoire et pas forcément avec l'inflation. Est-ce que vous avez l'impression aussi que la conscience écologique des acheteurs, des vendeurs a changé et qu'on va plus facilement, malgré les freins que vous avez exposés, on va plus facilement aujourd'hui revendre ces objets plutôt que les déposer aux encombrants et qu'on va plutôt acheter sur un site un objet de seconde main?
Oui, vous avez utilisé ce mot obligation. Nous, chez Use, on est convaincus qu'il faut donner envie aux gens. Ça sert à rien de leur faire peur ni de les contraindre. Bien sûr, on est face à un sujet qui est un sujet majeur de notre consommation. On peut plus être dans un modèle de consommation linéaire où on achète, on utilise et on jette. Tout ce qui est réutilisation, réemploi, prolonger la durée de vie des objets, inciter à la réparation, ça semble aujourd'hui être la seule voie possible pour une consommation qui est durable. Moi, je suis convaincue que l'avenir demain est à la seconde main. On le disait tout à l'heure, 95% des gens disent qu'ils veulent le faire, mais aujourd'hui, c'est moins de 10% des achats sur le mobilier électroménager qui sont faits en occasion. Le potentiel, il est encore énorme.
Merci beaucoup, Ilfine Lagarde, d'avoir été notre invitée éco de cette semaine. Je rappelle que Used, c'est sur Internet, Yoozd, pour retrouver tout ce que vous avez à vendre et à nous proposer ou ce qu'on peut vous proposer à vendre. Depuis 2020, c'est près de 200 000 tonnes de meubles, selon les statistiques que vous avez faites, qui ont pu être remis en circulation. C'est un bel impact. On vous en souhaite plein d'autres et que en 2023, on soit à 400 000 tonnes. Voilà. Merci beaucoup, Ilfine Lagarde. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Alors, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens comme chaque semaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors, peut-on apprendre à être chef? Comment se former et surtout comment progresser? Telles sont les questions que vous voulez aborder dans cette chronique. Pourquoi choisir un tel thème? Existe-t-il un doute sur la réponse à ces questions, Pierre?
Bien sûr qu'il existe un doute. Le métier de dirigeant, je pense que vous le savez, est un métier difficile et on peut légitimement se poser la question de savoir s'il s'apprend. La réponse d'ailleurs n'est pas si facile à faire et même s'il existe une abondante littérature sur le sujet et si de nombreuses écoles affichent une ambition forte, bien malin qui pourrait affirmer détenir la solution.
Alors quel est le débat en fait?
La question qui se pose, pour paraphraser Simone de Beauvoir, c'est de savoir si l'on est chef ou si on le devient. Pour beaucoup, les qualités humaines d'un dirigeant sont innées et les grandes figures de leaders sont souvent invoquées pour démontrer que le métier ne s'apprend pas. De Gaulle, Churchill, Bonaparte, Mandela ou même Gandhi sont des chefs par nature et ils ont dès l'origine des dispositions pour le devenir. Ils sont nés chefs et ils sont capables d'inspirer les autres et de les aider à atteindre leur plein potentiel.
Alors l'histoire avec un grand H donne raison à cette hypothèse, non?
Elle confirme en tout cas qu'il existe des prédispositions naturelles, mais cela ne veut pas dire qu'on n'apprend pas à être chef. Tous les grands leaders ou les grands managers ont connu des échecs, mais ils ont su en tirer les enseignements et ils ont progressé. L'humilité, l'écoute des collaborateurs, la capacité à se remettre en cause, le respect des autres, le sens des réalités, toutes ces attitudes permettent de grandir et de faire fructifier des dons naturels. J'en conclus donc que même des dispositions naturelles n'empêchent pas la nécessité d'un progrès par l'apprentissage.
Donc ça s'apprend, mais comment en fait?
C'est l'éternelle question. Certains sont partisans d'une formation académique, d'autres militent plutôt pour quelque chose de prosaïque, de professionnalisant. Les premiers pensent que cela s'apprend par de la théorie, alors que les seconds sont partisans d'un apprentissage par la pratique. Je pense que ce débat est stérile. Il oppose la construction de la personne et celle de ses savoirs, alors même que la formation d'un chef devrait précisément les réconcilier.
Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre ?
Ça veut dire que toute pratique doit se nourrir d'une réflexion plus fondamentale qui permet de s'enrichir à travers des sources philosophiques, sociologiques, anthropologiques fondamentales. Un manager qui ne lit pas, qui ne s'intéresse pas aux grandes tendances de son temps, est un manager qui s'éteint. Sa culture générale reste déterminante pour discerner dans un monde de plus en plus souvent volatile, imprévisible, complexe, ambigu et paradoxal. Là encore, je crois que c'est un juste équilibre à trouver entre des compétences à acquérir et une réflexion permanente à enrichir. Et c'est là qu'est toujours la marge de progrès d'un manager. On ne naît pas chef, on le devient.
Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette ode au progrès chez nos dirigeants et chefs d'entreprise. Nous, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec tous nos invités dans le dossier de l'Écho des Solutions. Passe dans ta radio, si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Malgré nos histoires, nos distances, et pour que les ondes de cette chanson se glissent dans ta maison. C'était M dans ma radio. Et dans ma radio, eh bien moi je vous propose d'ouvrir le dossier de l'Écho des Solutions où avec tous nos invités on parle de seconde main et de zéro déchet et de zéro gâchis. C'est le dossier de l'Écho des Solutions en cette journée mondiale du recyclage.
L'Écho des Solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'Écho des Solutions de cette semaine. On a déjà évoqué dans l'Écho des Solutions la question du zéro déchet, de l'anti-gaspi, mais cette semaine, on va l'évoquer sous un angle un peu particulier. C'est ce qu'on appelle dans le domaine journalistique anglais son sujet. Et le zéro déchet, l'anti-gaspi, quel pouvoir d'achat pour les Français? Est-ce que c'est un levier ou est-ce que ce n'est pas un levier? Pour nous accompagner, eh bien, nous avons trois invités. Tout d'abord, Maud Sarda, qui est directrice de Label Emmaüs, une plateforme d'e-commerce qui reprend en fait les spécificités des magasins Emmaüs pour les mettre sur la toile, c'est ça Maud ?
Oui, c'est ça. C'est le prolongement d'Emmaüs en ligne.
Et puis, à côté de vous, par les joies du numérique, nous avons Christophe Ménez. Christophe Ménez est dirigeant, cofondateur d'une société avec son frère qui s'appelle Smartway, qui s'appelait auparavant Zero Gashi, et qui a pour vocation de permettre aux clients, mais aussi aux supermarchés, de mieux gérer les dates courtes et que tout ça soit dans une relation gagnant-gagnant. Bonjour Christophe.
Bonjour, merci beaucoup, c'est tout à fait ça.
Et puis Thibaut Turchet, que nous avions déjà reçu dans l'émission quand vous étiez encore à Zéro Ouest France, vous en étiez le juriste, vous connaissez bien cette question du zéro déchet, vous êtes parti ensuite vers les collectivités locales, et avec vous Thibaut, on essaiera de comprendre comment de manière peut-être plus indirecte, grâce à des politiques publiques, le zéro déchet, l'anti-gaspi, permet d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Bonjour Thibaut.
Bonjour, merci de votre invitation.
On va donc commencer directement avec vous Thibaut, parce que vous êtes un expert de cette question du zéro déchet, de l'anti-gaspi. La loi AGEC qui avait été votée et rentrée en vigueur à partir du 1er janvier. La loi AGEC, c'est la loi justement sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut redire rapidement Thibaut ce qu'est cette loi et ce qu'elle change concrètement parlant aujourd'hui ?
Concrètement, c'est une loi qui s'est beaucoup attaquée, notamment à la question du plastique jetable. Donc, dans les rayons, notamment des supermarchés, les consommateurs devraient voir un petit peu moins de plastique, notamment aux fruits et légumes. Mais surtout, la loi a été très identifiée par le grand public pour une disposition qui rentre en vigueur là, cette année, au 1er janvier 2022, à savoir l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, par exemple des textiles, des objets. Alors, interdiction qui est un petit peu limité parce que les enseignes pourraient envoyer leurs objets non vendus, invendus, au recyclage. Donc on a besoin de quelques mois pour voir la pratique des entreprises, mais ça devrait, on va dire, augmenter le nombre de biens de réemploi sur le marché.
Qu'est-ce que ça veut dire le recyclage? Ça veut dire que en fait c'est une manière détournée de jeter tout en ne jetant pas le recyclage?
C'est ça, c'est une porte ouverte dans la rédaction de la loi qui avait été pointée par un certain nombre de structures, dont associatives, et c'est-à-dire envoyer un frigo, par exemple, au recyclage, ça veut dire le broyer, hein, pour le recycler, donc c'est une forme de destruction qui dit pas son nom. Mmh. Cependant, les entreprises ont le choix, donc on espère à ce stade que la plupart des entreprises choisiront de donner, revendre à plus bas prix, voilà, que de détruire.
Pour vous, Maud, c'est plutôt une bonne aubaine que cette loi anti-gaspillage, cette loi AGEC pour récupérer, continuer à récupérer, ou est-ce que justement c'est une crainte d'en avoir trop et de pas savoir gérer le stock?
Oui, alors il y a du pour et du contre, hein, ou en tout cas on est vigilant sur l'application. Il faut savoir que dans le dernier rapport de l'ADEME, qui date de la fin de l'année 2021, donc très à jour, dans les fins de série, les invendus des marques, il y a 21% qui part aux associations en dons. Hein, le reste, c'est pas pour les associations, hein, donc ça va être vendu à des discounters, ça va partir donc au recyclage ou c'était détruit. Donc, on espère que dans cette part de destruction, effectivement, le don sera privilégié, mais c'est pas toujours le cas. Et puis par ailleurs, il y a don et don. Hein, donc, si c'est pour récupérer tout ce qui ne se vend pas par ailleurs à des brocs. ça veut dire que nous, on ne risque pas de réussir à le vendre dans les bric-à-brac Emmaüs ou sur la belle Emmaüs en ligne. Ouais, donc l'idée, c'est pas non plus d'être la nouvelle déchetterie des marques.
C'est ça. Et pour vous, Christophe Ménès, c'est une bonne aubaine cette loi AGEC. Vous attendiez une loi de ce type-là. Elle va vous aider pour mieux accompagner encore vos clients.
Alors nous, sur la partie plutôt alimentaire, puisqu'on traite davantage du gaspillage alimentaire, c'est déjà des choses qui ont été un peu faites par le passé, notamment avec l'ancien ministre de l'Agriculture et agroalimentaire Guillaume Garot, qui avait du coup fait passer une loi sur l'interdiction de jeter les produits alimentaires. Et effectivement, il y a eu ce...
jeter et détruire aussi par la Javel, hein. C'était cette double loi, si je me souviens bien.
Tout à fait. En obligeant aussi du coup les magasins à signer au moins une convention de don avec une association caritative. Et effectivement, il y a eu cette question-là de se dire, à partir du moment où on légifère, est-ce que l'association devient la poubelle, entre guillemets, du magasin? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu quand même des vertus très positives, c'est-à-dire que la prise de conscience a été là, les distributeurs ont encore plus agi, les associations se sont encore mieux organisées, il y a eu un volume de dons qui a été encore amélioré, même si avec un peu de recul, on a constaté que le don était moins qualitatif. Mmh. On donnait plus, mais on donnait forcément moins bien.
On donnait, ouais, voilà, on donnait plus, mais on donnait moins bien. C'est un peu ce que vous disiez, Maud. Il faut être vigilant sur cette question-là. On va parler un petit peu de la notion de la seconde main. Finalement, chez Label Emmaüs, on est sur cette, alors on est peut-être des fois sur la troisième ou quatrième main avec les dépôts d'objets qui sont faits. L'idée, c'est quoi? Est-ce que vous savez d'ailleurs qui sont un peu vos clients? Est-ce que ce sont souvent des publics, on va dire, en précarité qui viennent sur Label Emmaüs ou dans les magasins, ou est-ce que finalement ce n'est qu'un contre-coup, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont du pouvoir d'achat qui vont permettre de donner du travail à ceux qui sont embauchés par Label Emmaüs et par les différents magasins et Emmaüs et ateliers?
Alors, nous, on a un double impact positif hein, chez Emmaüs en général. Le panier moyen d'un espace de vente Emmaüs, il est autour de 10 ou 15 euros. Et ça inclut aussi bien des meubles que des vêtements, que des livres, que des matelas. Donc, vous voyez que le prix moyen d'un article est très bas. Mmh. Et ça permet évidemment partie... Oui, c'est toujours le cœur des clients des espaces de vente. Ce sont des personnes qui en ont besoin, qui ont un très faible pouvoir d'achat. Mais la population qui va dans les espaces de vente, elle a aussi bien évolué avec le temps. C'est aussi tendance de s'habiller vintage et d'acheter d'occasion. Et tant mieux, puisque Emmaüs a besoin de tout type de pouvoir d'achat pour financer du coup son action d'insertion professionnelle, et c'est ce dont vous avez parlé également dans votre question. Donc quand on achète chez Emmaüs, non seulement effectivement on fait des économies, mais en plus cet argent va servir à financer des milliers de postes d'insertion qui sont dédiés à des personnes en très grande difficulté et très éloignées de l'emploi.
Alors quand on voit les personnes, vous dites que vous accompagner les personnes très éloignées de l'emploi. Quand on voit le budget moyen des Français, on sait que on a vu hein, que la part alimentaire baissait énormément dans le budget des Français. Pour d'autres parts, hein, que ça peut être l'énergie, ça peut être bien évidemment la maison, le logement, mais ça peut être aussi les voitures. Christophe Mélez, quand vous avez lancé Smartway avec votre frère, finalement vous avez créé l'entreprise dont vous aviez besoin quand vous étiez étudiant. C'est ça en fait, c'est un besoin que vous aviez et un constat que vous avez fait étant étudiant qui vous a mené à créer cette entreprise qui aujourd'hui est un petit fleuron. Elle n'est pas encore une licorne, mais elle est en train de le devenir.
Effectivement, pour nous, ça a été un vrai sujet d'allier à la fois l'environnement et l'économie. Donc, en étant consommateur, on trouvait parfois des produits qui étaient en date limite de consommation, qui avaient quelques remises donc dans les rayons des grandes surfaces. Mais c'était pas une démarche qui était très généralisée et on se rendait compte que en tant que simple observateur, en tant que consommateur, quand on passait d'un magasin à un autre, on voyait des volumes différents de produits. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de généraliser ça et c'est d'accompagner la distribution dans la mise en place de ces réductions de façon beaucoup plus professionnelle et beaucoup moins artisanale. Mmh. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat. Pour répondre un peu à la question aussi tout à l'heure, nous, la cible des gens qui achètent des produits remisés parce qu'en date limite, c'est tout le monde, c'est tous les Français. Et d'ailleurs, on vient de lancer une étude avec l'Institut de sondage Opinionway qui montre que 94% des Français sont sensibles à ce sujet et 92% des Français demandent aux enseignes de grande distribution de proposer des produits en promotion pour réduire le gaspillage alimentaire et faciliter le pouvoir d'achat. Donc oui, c'est un vrai alliage entre impact environnemental et impact économique.
C'est quoi la part par exemple de gaspillage, on va parler vraiment de gaspillage avant, j'ai envie de dire la solution de Zéro Gâchis et de Smartway. Quelle était la part de gaspillage? Un magasin moyen pouvait perdre combien de matières qu'il ne vendrait pas, qu'il aurait été obligé de jeter quand il pouvait encore les jeter, et aujourd'hui de donner ou de perdre, parce qu'à un moment donné on perd la nourriture quand elle est hors péremption.
Alors, c'est la grande distribution, c'est le maillon qui représente entre guillemets le moins du gaspillage alimentaire sur toute la chaîne. C'est 14% du gaspillage alimentaire est généré dans la grande distribution. Mmh. Maintenant, quand on regarde à l'échelle plus spécifique d'un magasin, ça représente à peu près 1% de son chiffre d'affaires. Donc, vous prenez une épicerie, enfin une petite supérette à côté de chez vous, ça va à peu près être 100 000 euros de gaspillage alimentaire. Quand vous prenez un gros magasin hypermarché, on va plutôt être à 500 000 euros par an de produits jetés. Donc, c'est quand même une somme hyper importante. Et sur ça, donc à peu près, si vous prenez un hypermarché moyen, avec nos services, on va réussir à redonner comme ça à peu près entre 300 et 400 000 euros de remise proposée aux clients, donc aux clients final, et donc qui vont permettre d'être éviter d'être jetés. Donc ça va être une perte pour le magasin puisque souvent il le revend à perte, mais c'est n'empêche au moins une soupape, donc un tampon entre guillemets sur cette destruction de valeur. Et donc on va aller comme ça épurer finalement cette perte économique jusqu'à 0,2% de son chiffre d'affaires. Quasiment la diviser par 5.
Vous disiez qu'il y avait, que finalement c'était une toute petite part, le gaspillage alimentaire dans les commerces. Il est réalisé où le reste du gaspillage alimentaire à domicile? C'est les produits qu'on met dans le frigo et qu'on jette parce qu'ils ont pourri, parce qu'on les a pas mangés?
Alors effectivement, le plus gros pourvoyeur du gaspillage alimentaire, c'est nous, le consommateur. Et le gaspillage, alors il est de plusieurs natures. Il y a une première qui est liée plutôt à la prévoyance. Ça veut dire que les gens n'ont pas forcément prévu de manger à l'extérieur et donc il va avoir du périmé dans le rayon. Ou alors c'est beaucoup lié à l'apparence du produit. C'est le premier critère qui permet de jeter un produit.
Les fameux produits moches qu'on trouve des fois. Il y a zéro gâchis, mais il y a aussi les produits moches qui se vendent moins cher parce que moins moches, mais pas moins bons. C'est ça?
Oui, c'est ça. Et alors là, c'était plus chez soi. Je disais en tant que consommateur, ça va être, on va regarder notre produit, on va le sentir, on va le goûter, et donc on va le jeter parfois. Vient ensuite le second critère, c'est la date limite de consommation. Et donc là, plus d'un produit sur trois jeté est lié à sa date limite de consommation. Donc c'est l'autre critère, et effectivement, ça revient avec le sujet de la prévoyance. Est-ce que je fais mes courses en étant conscient d'acheter d'abord des produits en date courte que je vais consommer rapidement, les produits en date longue un peu plus tard?
Et là, vous me faites une transition toute sur un plateau d'or et d'argent presque avec Thibaut Turchet. Finalement, dans les politiques publiques, vous qui avez accompagné des villes, où c'est ça les enjeux des politiques publiques sur le zéro déchet quand on est au cœur d'une métropole ou d'une ville, Thibaut?
Ça en fait partie. D'abord pour les usagers, parce qu'en fait c'est d'abord leur argent qui peut être gaspillé par des pratiques, et ensuite pour les coûts bien sûr de la collectivité en termes de gestion des déchets qui sont eux-mêmes supportés par une taxe ou des redevances par les usagers. Donc c'est sûr que les collectivités ont pas mal d'initiatives pour soutenir un certain nombre de projets avec un certain nombre de start-up. Typiquement la collectivité dans laquelle j'ai travaillé cette année et demie écoulée, on a soutenu une start-up qui s'appelle Pimp Up, qui elle travaille avec les producteurs au champ, qui eux-mêmes parfois écartent des produits hors calibre ou moches, comme on dit, et en fait arrivent à les recommercialiser. Et donc les collectivités ont un rôle pour soutenir ce type de projet, c'est-à-dire les faire connaître, les aider sur le foncier. Voilà, on pourra en reparler, mais c'est effectivement très important pour les économies.
En effet, c'est important. Je disais, est-ce que dans la question qui nous anime aujourd'hui dans le dossier, qui est la question du pouvoir d'achat, vous voyez des leviers que les collectivités publiques pourraient actionner pour permettre je pensais parce que j'ai interviewé son président il y a peu de temps chez IDEX sur le plateau de Puteaux. Ils mettent en place les agropelés par exemple, ce qui est de la réutilisation de biodéchets pour chauffer. Est-ce que ça finalement ça peut être des éléments qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat des Français ou des citoyens de ville, parce que finalement on va produire une électricité plus qualitative et à terme peut-être moins chère?
Complètement. Alors c'est vrai que c'est une synergie assez importante, les déchets et l'énergie. Je pense par exemple à la méthanisation qui pourrait se développer encore un peu plus pour produire du gaz ou de la chaleur ou de l'électricité à partir de biodéchets, donc de restes alimentaires produits par les habitants d'un territoire. Et ça, c'est clair que ce sont des filières qui demain seront beaucoup plus compétitives que le pétrole. Enfin, le sujet est d'actualité. Moi, je crois aussi beaucoup au rôle des collectivités pour soutenir les porteurs de projets de la seconde main. Alors Emmaüs est un réseau qui est installé depuis assez longtemps, mais aujourd'hui les collectivités qui par exemple n'ont pas de communauté Emmaüs souvent installent des ressourceries ou recycleries, sont les termes consacrés, pour que leurs habitants sur un bassin de vie puissent acheter de seconde main. Et aujourd'hui c'est pas partout en France qu'on a une ressourcerie ou une communauté Emmaüs ou une recyclerie, donc ça fait partie du panel.
On en trouve de plus en plus. Maud Sarda, est-ce que vous avez analysé chez Label Emmaüs un taux peut-être plus important lié à la précarité liée à la pandémie, précarité étudiante peut-être, perte de travail, perte d'emploi, c'est-à-dire une sorte de sursaut des ventes et des achats sur Label Emmaüs pendant ces périodes?
Oui, alors le sursaut, il a été très très fort après les périodes de confinement. Alors autant Label Emmaüs, c'est un site internet, donc on ne s'est jamais arrêté pendant la crise sanitaire. Les espaces de vente, en revanche, ont été quand même fermés 2 mois lors du premier confinement, 1 mois et demi lors du deuxième. Ça a été très dur pour le mouvement Emmaüs, hein. C'est quand même 20 millions d'euros de pertes. Pour un mouvement comme ça, en un mois, hein. Mois de fermeture, c'est 20 millions d'euros pour un mouvement qui s'autofinance, hein. Je le rappelle quand même, c'est important. C'est parce qu'on donne des produits et qu'on les achète chez Emmaüs que des milliers de personnes sont aidées, hein. Il y a très peu de subventions publiques ou privées. Donc ça a été un moment dur, mais en même temps, quand les confinements se sont terminés, les gens se sont vraiment précipités, effectivement, chez Emmaüs. Nous, sur notre site, on a vu des gammes de produits comme l'high-tech reconditionné, beaucoup, hein, les smartphones, les ordinateurs qui sont garantis, hein, 1 à 2 ans sur notre site, donc finalement
des clés par exemple pour les nouvelles conditions de travail, le télétravail. On n'a pas forcément les moyens, les entreprises mettent pas forcément les moyens pour pouvoir accompagner, donc il a fallu s'équiper à moindre prix, c'est
oui,
ça.
Oui, et puis pour les enfants aussi, hein, pour l'école à la maison, donc et c'est très cher, évidemment. Évidemment, ce sont des matériels neufs qui sont extrêmement chers. Nous, ils sont 2 à 3 fois moins chers sur le site. Là, il y a eu une explosion. C'était même plus 120% par exemple, hein, pour l'high-tech par rapport à l'année précédente.
Christophe Ménez, vos clients ont pu voir aussi un accroissement des stands zéro gâchis pendant cette période de Covid. Alors, eux, ils sont restés ouverts. Mais maintenant aussi, où on voit... voilà, on dit qu'il y a une belle relance qui se passe en France, mais enfin la précarité, elle reste importante. Vous avez eu un constat de ce type-là, vous l'avez fait mesurer par vos...
Oui, alors nous, on a plutôt constaté le phénomène inverse dans la grande distribution alimentaire, puisque si on se rappelle comment c'était, les rayons
c'était
étaient
vide.
Plutôt vides que pleins. Donc en fait, il y a eu beaucoup moins de gaspillage alimentaire qui a été généré. Nous, on a observé des taux qui diminuaient de 45 à 50% quand même du gaspillage alimentaire constaté en grande distribution.
Donc ils achetaient même les produits moches et en date courte finalement, plus spontanément qu'ils ne le feraient.
Oui, parce qu'ils allaient moins souvent faire leurs courses et s'approvisionnaient en plus grosse quantité. Donc finalement, ça crée de la rupture plus que du gaspillage alimentaire. Donc on a constaté ça. Et après, par contre, en revanche, sur la deuxième partie de la question, oui, on constate que c'est un vrai besoin, c'est une vraie attente des consommateurs de pouvoir trouver ce type de promotion. Ça allège le portefeuille et on vient comme ça aller économiser une quinzaine d'euros par semaine, par exemple, sur des achats alimentaires. Donc c'est pas neutre. Et surtout par exemple pour des étudiants qui ont quand même un pouvoir d'achat limité, mais pas que, malheureusement.
Alors vous êtes passé dans Capital, où était expliqué votre système, qui est très intéressant, en intelligence artificielle pour fixer les prix, c'est-à-dire en fonction, j'ai envie de dire, de la température extérieure, en fonction du jour de la semaine. Et j'ai vu que vous preniez même en compte la dimension sociale, c'est-à-dire que les taux de remise ne seront pas forcément les mêmes qu'on habite les quartiers nord de Marseille, des quartiers plus pauvres, je ne vais pas les stigmatiser, mais des quartiers plus pauvres que le 16e arrondissement, qui sont des quartiers plus riches. Mais
tout l'intérêt du gaspillage alimentaire, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas jeté. Et pour faire en sorte qu'il ne soit pas jeté, il y a plusieurs issues possibles. Il y a le consommateur, il y a le don alimentaire, et il y a aussi d'autres actions possibles. Nous, notre service, c'est une intelligence artificielle qui vient permettre de préconiser au magasin quel est le bon choix à faire pour que son produit finisse par être consommé et non pas par être jeté. Et donc, on va comme ça arbitrer entre, il y a des produits, ça ne sert à rien de les mettre en promotion dans une très grosse quantité, puisqu'on est certain que tous les consommateurs du magasin ne vont pas les acheter. Donc, il est préférable d'en mettre une partie en promotion et une partie directement en don alimentaire, puisque comme ça, on va aussi permettre de nourrir d'autres personnes. Et donc après, effectivement, sur le taux de remise, il est important de le faire varier, parce que à un moment, on est en train aussi de rimer entre profitabilité du magasin, qui est une entreprise. Donc on essaye de dégrader le moins possible sa perte économique pour faire en sorte que l'entreprise, que le magasin reste aussi compétitif et puisse finalement tous les jours proposer des prix intéressants et non pas répercute son coût du gaspillage alimentaire et sa perte de marge dans le prix de vente des autres articles.
Sachant que c'est quand même toujours une fourchette, enfin c'est toujours c'est un peu large,
mais
une fourchette entre 20 et 30%, ce qui pour un panier moyen d'un consommateur peut être très très intéressant. Thibaut Turchet, sur les politiques publiques à accompagner, qu'est-ce qui reste à faire? Vous avez pu avoir le regard extérieur, le pouvoir intérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'il faudrait? S'il y a des maires qui nous entendent, s'il y a des présidents de métropole qui nous entendent, quels sont les grands enjeux pour les années prochaines sur cette question du zéro déchet, de l'anti-gaspi, pour permettre justement un mieux vivre des concitoyens?
Il va falloir choisir parmi une longue liste, on aura peut-être deux points. Le premier, c'est un effort de sensibilisation. Ouais. Je crois qu'en fait, alors même si le fait de réduire le gaspillage semble être une évidence pour quiconque écoutera votre émission, il y a quand même un énorme effort de sensibilisation aussi à une forme de sobriété aussi au moins consommé ou au mieux consommé. Ouais. Alors je dis ça sans condescendance, parce que les personnes qui ont de hauts revenus, aujourd'hui les études montrent qu'il va falloir faire un petit effort de sobriété, moins rouler en SUV, etc., etc. Mais dans une société qui pousse à une consommation un peu frénétique, ça touche aussi les personnes qui ont des faibles revenus. Et je crois qu'il y a un changement, on va dire, de rapport à la consommation qui doit s'opérer. J'ai envie de dire, quels que soient les revenus, et encore une fois, sans stigmatiser ou le dire avec condescendance. Voilà. Ouais. Bon, il y a une ambiance, un bain culturel qui favorise une consommation parfois pas toujours utile. Je pense voilà, on parle pas d'alimentation, mais d'autres biens. Donc ça, c'est un effort de sensibilisation important à poursuivre pour les collectivités, y compris sur le tri de leurs déchets, etc. Et puis peut-être un gros chantier sur la collecte des déchets, qui est un service qui coûte très très cher aux collectivités et donc aux usagers. Réduire la collecte des ordures résiduelles en mélange, celles qui finissent dans des usines d'incinération par exemple. Augmenter le tri des biodéchets, le compostage, qui sont des filières plus vertueuses, qui à terme coûte moins cher, on a moins de camions à faire circuler. Là, il y a de grosses économies. Les collectivités, alors les coûts sont très disparates, mais ça peut aller de 80 euros par habitant et par an à 150, 170 euros par habitant et par an de coût de gestion des déchets. Donc c'est considérable et on peut au moins stabiliser, voire réduire ses factures dans certaines collectivités.
Pour vous, Maud, il y a des enjeux aussi sur les pouvoirs publics, sur cette question de la seconde main, du zéro déchet que vous défendez chez Label Emmaüs?
Oui, alors les collectivités nous soutiennent quand même beaucoup sur les axes de réemploi, hein, donc heureusement qu'elles sont là, franchement, c'est souvent le soutien public le plus important. Donc nous, on est très en lien avec les collectivités sur deux thématiques. La première, c'est le développement de plateformes logistiques. Donc on a deux plateformes logistiques, une dans le 93 en Seine-Saint-Denis et dans le Lot-et-Garonne, donc dans un milieu très rural. Et dans ces deux endroits, en fait, on récupère des surplus, donc des surplus de livres dans le 93, des surplus de mobilier dans le 47. Et c'est tout ce qui finirait à la benne, hein, sinon au recyclage au mieux. Et on arrive, en fait, à le trier et à sauver, par exemple, un livre sur deux qui finirait sinon au recyclage au pilon, et on le vend en ligne. Et grâce à cette activité, on crée des postes d'insertion et donc ils nous soutiennent aussi sur cet autre axe qui est la formation et l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment des partenaires clés dans le développement de nos différents projets, et des plateformes logistiques comme ça, on aimerait en créer partout en France et sur toutes les filières de produits qui se mettent en place, notamment avec les lois AGEC et les éco-organismes qui se créent actuellement sur le jouet ou sur le sport loisir.
Christophe Ménez, on arrive au terme de cette émission, donc vous allez quasiment avoir le mot de la fin. Le rapport avec les pouvoirs publics, vous êtes une entreprise privée, vous vous adressez essentiellement à des entreprises privées qui sont des commerces. Est-ce que le public, les pouvoirs publics sont des interlocuteurs pour vous, et comment vous les abordez et sur quel plan?
Oui, alors en fait, assez naturellement, on a été dans les discussions parlementaires par rapport à cette loi anti-gaspillage il y a déjà des années. Et donc finalement, c'est un sujet qui est d'actualité et qui est traité au niveau des pouvoirs publics, donc sur lequel on est très régulièrement convié pour échanger. Donc on donne notre regard sur tout ça. Après, au-delà des pouvoirs publics, sincèrement, quand on a posé la question aux Français de qui doit agir pour réduire le gaspillage alimentaire, ce que je trouve intéressant, c'est que l'étude Opinionway montre que l'attente des consommateurs auprès des pouvoirs publics n'est pas très forte sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Elle demande davantage aux acteurs privés, justement les entreprises, l'industrie agroalimentaire, les enseignes de distribution, mais aussi soi-même en tant que consommateur, de pouvoir agir. Donc c'est aussi un fait important important à relever, c'est que je pense que le pouvoir public a quand même fait une première partie d'action sur ce sujet et maintenant à tous de s'emparer de cette problématique.
Merci beaucoup Maud, merci beaucoup Christophe, merci beaucoup aussi à vous Thibaut d'avoir été nos invités du dossier de l'écho des solutions. Moi je vous propose de continuer tout de suite avec Maxime Dupont et sa chronique Un Max d'écho et puis on se retrouvera nous tout de suite après depuis Montaigu où je suis parti à la rencontre de Timothée Clair, responsable d'administration et de développement de la ressourcerie culturelle de Montaigu. De quoi il retourne? C'est quoi une ressourcerie culturelle? Je suis sûr que vous voulez le savoir. Eh bien, le seul moyen de le savoir, c'est de rester à l'écoute de l'écho des solutions. Allez, on retrouve tout de suite Maxime Dupont et Un Max d'écho. Et nous, on se retrouve tout de suite après avec nos 7 minutes pour changer le monde depuis Montaigu.
Maxime Dupont.
Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour Un Max d'écho. Maxime Dupont, bonjour.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, nous parlons alimentation.
Oui, Patrick, à l'heure où les débats sur la souveraineté alimentaire alimentent les conversations, dans une réflexion plus globale sur l'agriculture que nous voulons, France Agrimer a publié une étude sur la capacité de notre agriculture à répondre à nos besoins de consommation.
Alors, quelle est la liste de ces produits alimentaires pour lesquels notre auto-approvisionnement est supérieur à 100%?
On commence avec une très bonne nouvelle. Il y a l'orge que l'on retrouve dans la bière et le vin qui sont dans ce cas. On devrait donc pouvoir tenir un siège sans être dépourvu de réserves alcooliques à consommer avec modération, Patrick, bien sûr. Parmi ces produits alimentaires, on trouve aussi la poudre de lait écrémée. Oui, je vous sens aussi circonspect que moi, Patrick.
Un petit peu. Oui.
Le sucre, le blé dur. Ouf, on pourra miser sur les pâtes. Le maïs, le fromage, mais aussi les pommes de terre. Pas de menace sur les chips et les frites. Et c'est sans doute la meilleure nouvelle de ce rapport.
Non, moi, je suis pas très frites et chips, mais enfin, c'est pas grave. Passons aux autres produits pour lesquels nous sommes presque à l'équilibre.
Alors, il s'agit du bœuf, 95%, et des œufs, 94%. Autant dire que l'équilibre devrait bientôt être atteint grâce à la progression des modes de consommation végétariens et flexitariens.
Et maintenant, malheureusement, les produits pour lesquels nous dépendons de nos importations, Maxime.
Alors, il y a les fruits, qu'ils soient issus des climats tempérés ou bien sûr des climats exotiques. Il y a les légumes frais, le poulet, le soja, le riz, autant de fondamentaux pour lesquels nous ne sommes pas autosuffisants. Ce qui est le plus préoccupant est évidemment les fruits et les légumes. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé il y a peu un plan, un énième plan me direz-vous, et vous n'aurez pas tort, un plan donc pour reconquérir l'autonomie alimentaire de la France en fruits et légumes, d'autant que structurellement, notre autonomie alimentaire, et pas seulement pour les fruits et légumes, recule.
Eh oui, il recule dans le temps. Donc un mot de conclusion pour tout ça, mangeons heureux, mangeons cachés.
Oui, alors Patrick, j'ai bien étudié votre régime alimentaire et la conclusion est sans appel. Si vous voulez contribuer à restaurer la souveraineté alimentaire de la France, il va falloir immédiatement sacrifier votre routine du Pokéball.
C'est bon.
Oui, parce que je sais que vous mangez un Pokéball par jour et j'ai bien regardé. Il n'y a rien qui va dans votre Pokéball quotidien. Riz, mangue, avocat, saumon, noix de cajou, ananas, rien n'est produit ici. Passez donc sur un poké local. Je vous ai créé une petite recette juste pour vous.
D'accord.
Orge, sucre, blé, maïs, fromage et le tout, bien sûr, saupoudré de poudre de lait écrémé. Vous nous ferez plaisir.
Mon Dieu, quelle horreur. Bon, bah, écoutez, je testerai. À mon avis, on est à peu près du niveau du Globibulga de Casimir. Enfin, on testera. Maxime, merci pour les principaux enseignements de cette étude réalisée, je le rappelle, par France Agrimer. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Et moi, je vous emmène. On va prendre notre télétransporteur pour aller du côté de Montaigu en Vendée. On va retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde puisqu'on va aller à la ressource culturelle, à la ressourcerie culturelle de Montaigu. C'est nos 7 minutes pour changer le monde et vous êtes bien sur RCF et dans l'écho des solutions.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, on s'est délocalisé dans les bureaux de la ressourcerie culturelle de Montaigu pour évoquer cette question dans nos 7 minutes pour changer le monde de que faire avec tout le matériel qui est mis en place lors d'un événement, d'un festival. Vous savez, ces écrans en tissu sur lesquels on va projeter des lumières, ces structures en bois, ces grandes moquettes dans les allées des salons. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, la ressourcerie culturelle de Montaigu a trouvé une solution et je suis avec Timothée Clair qui est le responsable de l'administration et du développement de cette ressourcerie. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Merci beaucoup donc de nous recevoir déjà dans vos bureaux. On, on le voit au travers de la fenêtre, il y a déjà un grand hangar, mais on m'a dit que c'était pas que c'était qu'une petite partie du grand iceberg que vous aviez. Dites-nous un peu ce que c'est qu'une ressourcerie culturelle. Je crois que je l'ai un peu résumé dans mon introduction. C'est bien ça, c'est se dire finalement il y a plein de choses qui sont sur des salons, sur des festivals, qui sont jetées plutôt que de les jeter, on va pouvoir les réutiliser.
Ouais, c'est ça. Ça part du constat qu'il y a une grande quantité dans l'événementiel de manière générale, que ce soit le spectacle vivant ou l'événementiel de salon, l'événementiel culturel de manière générale, qui a des besoins en matériaux et en fournitures qui sont du one shot, donc utilisés d'un seul coup et qui vont ensuite être généralement jetés, alors même qu'ils auraient pu avoir une seconde vie. Et donc notre but justement, nous, c'est d'aller à cet endroit-là et de voir comment à la fois on peut récupérer tous ces matériaux-là qui sont généralement très intéressants, qui coûtent cher et surtout qui sont demandés par d'autres acteurs, et aussi en amont de voir comment on peut justement réduire toute cette quantité de matériaux qui ont vocation à être jetés et donc réutilisés par nous.
Alors quand est-ce qu'est née cette ressourcerie culturelle à Montaigu? Ça fait longtemps que vous existez?
Alors le projet, il a débuté de manière un petit peu informelle en 2018 et puis s'est progressivement étoffé avec quelques actions. On est devenu une association en fin 2020. Donc ça fait 2-3 ans qu'on s'est posé, qu'on commence à salarier des personnes et surtout qu'on a acquis aussi un grand bâtiment dans lequel on peut mener nos activités, stocker du matériel, etc. L'équipe se structure, on est 6 actuellement. Et on travaille avec plusieurs prestataires et on essaie justement d'agrandir un peu notre spectre d'opérations et de trouver surtout un rythme de croisière depuis cette année.
Alors justement, c'est quoi l'activité de la ressourcerie culturelle? Comment ça s'organise? Vous avez un événement qui vous contacte. Qu'est-ce que vous leur proposez? Ou est-ce que c'est vous peut-être d'ailleurs qui allez à la recherche des événements et qui allez les solliciter?
On est souvent sollicité parce qu'on commence à être un petit peu connu et puis qu'il y a des acteurs un peu historiques de Nantes qui ont disparu récemment. Donc par exemple une exposition, là on est sollicité pour le démontage d'une exposition en vue de réutiliser la plupart des matériaux qui ont été utilisés dedans, des vitrines, des socles, etc. Nous ensuite on intervient pour voir si c'est possible, il y a une question de vie, etc. Et surtout une question technique, de voir à quel point c'est réemployable, à quel point c'est facilement démontable, etc. Et ensuite donc on intervient sur place avec des équipes, de temps en temps on prend des prestataires pour compléter nos équipes. Donc ça c'est une possibilité. Ensuite on a souvent des opéras ou des théâtres qui nous contactent parce qu'ils ont des décors à évacuer, du matériel technique, etc. Là, on peut aller sur place d'abord pour voir si ça nous intéresse, si c'est valorisable ou si c'est au contraire de la très mauvaise qualité. Voilà, c'est cassé. Et on reprend ça chez nous, on fait des collectes qu'on facture généralement. Et ensuite, on ramène ça donc à Montaigu dans notre espace de stockage. Et le but, c'est là où c'est compliqué, c'est de leur donner une seconde vie. Donc de faire en sorte que d'autres personnes s'intéressent à ces matériaux, à ce matériel et puissent le réutiliser, alors soit tel quel, soit le retransformer, par exemple des châssis de décor, voilà, qui représentent un salon du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on le repeint, ou est-ce qu'on veut garder au contraire cette esthétique-là et la réutiliser telle quelle, ou au contraire, est-ce qu'on va la débiter en petit assaut justement pour réutiliser les matières premières?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire autant on comprend bien comment vous intervenez sur un salon, autant on comprend bien comment vous intervenez sur des décors de théâtre. Est-ce que ça veut dire que pour un événement qui aurait besoin de matériel, vous avez aujourd'hui un catalogue avec des vitrines, avec des photos et puis un peu, j'ai envie de dire, comme le catalogue, ex-catalogue de la Redoute, on scrolle des pages pour chercher ce dont on a besoin et ça a un coût à la location, à la durée, etc.?
Ouais, tout à fait. On a un catalogue sur notre site internet, donc avec 2 pages, soit vente ou location. Et puis tous les matériaux matériaux ou objets qu'on récupère, on les met en ligne. On le complète évidemment au fur et à mesure. Et ensuite, voilà. Alors au choix, vous pouvez soit venir sur ce site histoire d'avoir une idée de ce qu'on a en magasin, ou alors venir directement, ce qui donne aussi une meilleure idée de la qualité, de la quantité, etc. des matériaux qu'on peut avoir. Mais oui, c'est tout à fait l'objectif. De notre modèle de commercialisation.
Vous avez combien de personnes qui travaillent à la ressourcerie? Qui dit association dit engagement bénévole, il y a des collaborateurs salariés, il y a des bénévoles, il y a combien de personnes qui interviennent dans le process de conseil et de récupération du matériel?
Donc comme je disais, donc on est 6 salariés, on a deux trois prestataires qui travaillent régulièrement avec nous, une service civique aussi. Et puis ensuite, on a entre 5 et 10 bénévoles qui viennent régulièrement nous donner des coups de main, que ce soit pour des démontages qui prennent un peu de temps, de la manutention, ou alors des projets un peu plus personnels de fabrique, d'objets, etc. Voilà, on essaye de travailler avec ces gens-là. On a une équipe voilà, qui se structure un petit peu depuis cette année.
Vous êtes nombreux en France à pratiquer la ressourcerie culturelle ?
On est 6-7 à peu près, sur tout le territoire français, pas tout à fait également répartis. On a quelques structures, enfin 4 structures parisiennes notamment. Mmh. Et donc avec chacune des spécificités, on a par exemple des collègues de Paris qui sont uniquement sur le son et lumière, on a des collègues de Paris qui sont aussi uniquement sur le cinéma. On a des collègues qui sont uniquement sur de la matière. Enfin bon, voilà, ça bouge un petit peu et il y a des nouveaux projets qui émergent à droite à gauche, à Strasbourg, à Lyon, à Dijon. Donc ça, voilà, le réseau se complète progressivement.
Est-ce que vous avez le sentiment que les salons, les foires expo, les congrès, les théâtres, les scènes nationales, les plus petites scènes départementales ou autres ont conscience aujourd'hui de cette nécessité de ne pas uniquement jeter alors vous êtes une ressourcerie culturelle, on pourrait évidemment faire le tri sélectif des objets en allant s'adresser à des ressourceries ou à des déchetteries hein. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'ensemble de ces acteurs a une prise de conscience de la nécessité de pouvoir réutiliser finalement, de penser cette circularité?
Oui, alors bon, parce que médiatiquement ça fait de plus en plus de bruit, ce genre de choses, parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez des fois humain de voir des quantités gigantesques de matériel neuf ou très très peu usé être mis à la poubelle, etc. Et puis notamment dans le cadre de créateurs de décors, c'est toujours un petit peu difficile, je pense, que pour un scénographe de voir que une pièce qu'il a, enfin le décor d'une pièce qu'il a créée doit être jeté et finir en morceaux de bois qui vont finir dans de l'aggloméré. Bon, il doit y avoir un petit pincement au cœur à ce moment-là. Donc nous, le travail se fait et nous ensuite on a un énorme travail de sensibilisation. Alors déjà dans un premier temps pour dire attention, c'est ce que vous considérez comme du déchet peut au contraire avoir une seconde vie, et surtout ensuite vous, quand vous reconstruirez ou quand vous allez projeter tel événement, etc., pensez d'abord au réemploi, donc pensez à des choses qui ont déjà vécu pour reconstruire et pour organiser vos événements.
Donc le plus important pour vous, c'est pas forcément uniquement de récupérer, c'est aussi de conseiller, de conscientiser les différents acteurs à cette capacité d'anticiper par le réemploi avant de fabriquer des choses neuves.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est l'idée de l'éco-circularité, de l'économie circulaire. C'est pas que les gros acteurs libèrent tout leur flux de déchets, etc., dans des ressourceries qui elles ensuite redirigent ces flux vers des plus petites structures, etc. Parce que sinon, en fait, les gros acteurs n'auront aucun intérêt vraiment à réduire leur quantité de déchets produits. Donc le but, c'est de sensibiliser suffisamment ces acteurs et de leur proposer aussi suffisamment de matière pour que eux-mêmes, lors de la conception de leurs événements ou lors de la conception de leur scénographie, etc., puissent s'alimenter et venir se fournir chez nous, justement, voilà, pour qu'il y ait l'idée de circularité totale et qu'au final, des gros acteurs fournissent d'autres gros acteurs avec des petits acteurs au milieu, mais voilà, l'idée d'un cercle au final.
Une très belle idée, Timothée Leclerc, que ces ressourceries culturelles et particulièrement celle de Montaigu. Merci d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Alors, bien évidemment, soit en direct, 12h-13h sur RCF ou bien en podcast sur toutes les plateformes, quand vous voulez, à l'endroit où vous voulez, que ce soit sur la Lune ou en haut de la Tour Eiffel ou à la ressourcerie culturelle de Montaigu, peu importe. L'important, c'est que vous soyez à l'écoute et merci encore de votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent moment à l'écoute des programmes de RCF. À très bientôt, au revoir.